C'est une star planétaire. Tu connais, c'est obligé,
avait dit Zoé, en lui glissant un de ses AirPods dans l'oreille. Aurélien avait balancé la tête au rythme de la chanson. La musique ne lui évoquait rien, pas plus que son interprète. Mais elle avait le mérite d'être entraînante. Et, en tant que conservateur, il était plutôt en phase avec les paroles. Daphné aussi s'était étonnée de son ignorance. D'un ton caustique, la présidente qui aimait les chiffres lui avait rappelé quelques fondamentaux pour rafraîchir sa mémoire. 6 Grammys, 1 milliard d'écoutes cumulées, une ligne de streetwear et des contrats d'égérie avec les marques les plus en vue du moment. Passer à côté de sa popularité, c'était vraiment ne pas vouloir faire partie du monde. Oui, s'était excusé Aurélien. Maintenant qu'elle en parlait, ça lui disait peut-être quelque chose. Après un divorce difficile qui l'avait éloigné de son public, la star opérait un retour aux sources et au R&B de ses débuts. À peine dévoilé, l'étendard féministe Leonardo's Pantene s'était imposé en tête du hit parade. Dans le cadre de sa tournée promotionnelle, l'artiste de passage à Paris avait tenu à se rendre au Louvre et avait explicitement demandé la présence du directeur du département des peintures à ses côtés. S'il avait un peu rechigné, Daphné lui avait fait comprendre que certaines occasions de communication ne se refusent pas. Quand Aurélien rejoignit le petit groupe au pied de la Victoire de Samothrace, Daphné était déjà là avec la directrice des relations extérieures ainsi que la chanteuse et la demi-douzaine de femmes qui constituaient son entourage. Un caméraman filmait, légèrement en retrait. L'artiste arborait une longue crinière rose, une combinaison aux reflets irisés et des chaussures effilées comme des poulaines. Blotti contre son sein, un animal au pelage clair qu'Aurélien reconnut être une hermine ou un petit furet, le même que Vinci avait représenté dans les bras de Cecilia Galerani, le regardait d'un air cruel en passant à intervalles réguliers sa minuscule langue sur ses canines pointues. La jeune femme lui caressait nonchalamment la tête de ses ongles immenses. « She doesn't like men, my sweetie. » Aurélien recula d'un pas. « Let's go !» envoya la chanteuse avec autorité. Le conservateur guida le groupe dans l'aile des noms déserte. On avait retardé son ouverture pour éviter des bousculades et permettre à l'artiste de profiter des œuvres sans être importuné. Les gardiens se tenaient à distance. Dans les oreillettes, les consignes étaient claires. Pas de demande d'autographe ou de selfie pour le personnel. Arrivé dans le salon carré où siègent les primitifs italiens, Aurélien montra Saint François d'Assise recevant les stigmates du précurseur Giotto. C'était une bonne entrée en matière. Sur un fond d'or hérité de la tradition byzantine, Saint François, genoux en terre, paume ouverte, surpris, ébloui et peut-être même inquiet, recevait du Christ représenté en étrange séraphin les marques du supplice de la croix. Pour figurer l'opération, Giotto avait dessiné des rayons dorés reliant les mains et les pieds de Jésus à ceux du saint.
Lasers. It looks like fucking lasers,
lâcha la chanteuse avant de tourner le dos au tableau. Aurélien hocha la tête. C'était une manière de voir les choses. Si la star lui en avait laissé le temps, il aurait attiré son regard sur la composition en diagonale opposant le monde des hommes et la sphère céleste. Il aurait fait remarquer la posture expressive inédite du saint auquel tout un chacun pouvait s'identifier. Il aurait expliqué que dans cette volonté de rendre accessible le sacré, dans cette recherche du réel au détriment de l'idéalisation, il y avait là les germes vivaces de la révolution humaniste. Et si l'on y ajoutait les intuitions du maître en matière de perspective, toutes ces caractéristiques, aurait-il conclu, faisaient de Giotto un pionnier et certainement le père de la Renaissance italienne. Il ne dit rien de tout cela. Le groupe s'était désintégré et déambulait dans la grande galerie, puis disparut subitement dans la salle des États. Aurélien, un peu vexé, les retrouva sans se presser. La chanteuse se tenait face à la Joconde. De part et d'autre, les 6 Amazones s'étaient réparties en arc de cercle le long de la rambarde de protection. Il hésita à se lancer dans un commentaire du tableau, mais l'Américaine posa son index sur ses lèvres violettes. Ils restèrent là, un moment sans rien dire, quand elle imprima à sa colonne vertébrale une ondulation subtile, un frémissement qui naissait quelque part dans ses cuisses et se propageait vers sa nuque comme une brise sur un champ de blé. Les yeux dans la peinture, le corps parcouru d'une houle à l'amplitude croissante, l'artiste descendit lentement sur ses talons jusqu'à s'accroupir complètement, avant de se redresser dans une oscillation serpentine dont la fluidité était interrompue d'à-coups et de tremblements, comme si cette généreuse enveloppe de chair abritait une armature mécanique. La tête, mobile au bout de son cou, dodelinait de droite à gauche. Ses longs doigts déployés en éventail caressaient l'air d'une gestuelle nécromancienne. Autour, les jeunes femmes se balançaient comme un chœur gospel. Certaines envoyèrent quelques vocalises. L'hermine, juchée sur l'épaule de sa maîtresse, accompagnait le rythme de mouvement de sa queue à l'extrémité charbonneuse. Elle tournait de temps en temps vers Aurélien un faciès haineux. Prise entre l'œil avide d'un iPhone et celui bienveillant de la Joconde, l'Américaine poursuivait une chorégraphie à la sensualité robotique, vaguement obscène si l'intention n'apparaissait pas si pure. Dans l'étrange atmosphère qui était tombée comme une chape sur la salle des États, cette démonstration ressemblait davantage à l'offrande d'une prêtresse païenne qu'à une parade de boîte de nuit. La grâce se tenait là, quelque part entre la manucure extravagante, les cils papillons, la chevelure acide, les mouvements scandés de son corps, les brillances moirées du vêtement, la cambrure de Vénus. La grâce tenait tout ça ensemble. La fille du Bronx au destin de Cosette élevée dans les clubs de striptease, devenue l'un des visages de réussite de l'Amérique, confrontait sa propre célébrité à celle d'une dame de Florence disparue il y a 500 ans. Ce n'était pas la première, mais si d'autres étaient venus se mesurer avec les chefs-d'œuvre dans une compétition d'égo, son hommage à elle était touchant de vérité et de candeur. Daphné chuchota à l'oreille d'Aurélien avec gourmandise. « On va exploser les compteurs !» Derrière sa vitrine, bon public, Lisa souriait. La légende disait que, pour obtenir sa délicate expression, Léonard avait fait appel à des musiciens et troubadours qui jouaient sans interruption pendant qu'il la dessinait. Son sourire éternel devait aux artistes, peut-être qu'il nécessitait parfois d'être entretenu par eux. La danse finit brutalement, comme elle avait commencé, et le musée replongea dans un silence religieux. La chanteuse se tourna vers Aurélien. C'était peut-être le bon moment pour prodiguer quelques explications sur la peinture. À peine ouvrit-il la bouche, que l'hermine bondit de l'épaule de la jeune femme pour fondre sur lui. Il eut juste le temps de protéger son visage. Les crocs du mustélidé s'enfoncèrent dans le gras de sa paume. La douleur vive lui arracha un cri et l'animal effrayé disparut dans la grande galerie. En un instant, le groupe se disloqua. Une nuée d'Amazones en talons de 12 coururent comme elles pouvaient sur le parquet ciré, tandis que la star hurlait des « Come back, sweetie !» sans effet. Daphné avait dégainé son portable et, instantanément, 6 membres de la brigade des pompiers du Louvre arrivèrent à la rescousse. On fouilla derrière les cadres d'Archimboldo, sous les banquettes bornes de Paulin. On répandit des boulettes de viande pour appâter la fugitive. Aurélien s'était fourré la plaie dans la bouche et susautait sa blessure, sous le regard noir de l'Américaine. Après une heure de recherche, on dut s'avouer vaincu. L'hermine avait remporté la partie de cache-cache. La star pleurait maintenant sur un banc et ses assistantes se pressaient pour lui offrir des mouchoirs. Aurélien se confondit en excuses. La bête finirait bien par revenir. On promit que, dès qu'on la retrouverait, on l'enverrait à Los Angeles. En première classe, tout à fait. Aurélien regagna son bureau avec une certaine lassitude, tandis qu'une foule désordonnée et bruyante reprenait possession du Louvre. Il songea que les chefs-d'œuvre n'avaient pas été conçus pour être observés dans les conditions du monde actuel. Quelque part, il devait admettre que le concept même de musée, en les offrant à la vue de tous, avait dénaturé la relation aux œuvres. À la Renaissance, les toiles ou panneaux peints dans l'intimité des ateliers étaient destinés à des endroits tout aussi confidentiels, pour la plupart réservés à de rares privilégiés. L'appartement d'un prince ou le réfectoire d'un couvent interdit aux laïcs. Et quand ils étaient disposés dans des lieux accessibles aux communs des mortels, les fresques et les retables se donnaient dans le secret des flammes vacillantes des cierges, à la lueur faiblarde des vitraux, dans la ferveur et le mystère. Certainement, il y avait une incongruité à ce qu'aujourd'hui les œuvres se retrouvent scrutées sous toutes les coutures, détachées de tout contexte, diffusées à si grande échelle, dépliant leur vérité crue sous des flots de l'humaine ou sur des millions de pixels rétroéclairés.